Riviera Ferraille.
La créature d'Elmendorf, le dévoreur de bergères, le Mossman de Bonne Pleasant, le monstre de Canvey Island, ce sont nos dossiers du jour dans le Bureau des Mystères.
Bonsoir, bienvenue dans le Bureau des Mystères, je suis Mathias.
Et je suis Charles. Et avant de commencer cet épisode, on voudrait faire un petit tour rapide des messages qu'on a reçus, qu'on reçoit de temps en temps de votre part au Bureau des Mystères. Alors on les étudie, on les épluche. On en a notamment reçu un de Stéphanie, qui apporte des précisions sur Olivier de Kersauzon et son bateau, soi-disant attaqué durant le trophée Jules Verne par un calamar géant. C'était l'épisode de rentrée où l'on parlait du Kraken, et en fait elle nous expliquait un petit truc qu'on savait pas. C'est que apparemment Olivier de Kersauzon était mal engagé dans la course. Donc voilà, il était pas forcément premier. Et il aurait peut-être utilisé ce prétexte du Kraken, du calamar géant, pour justifier peut-être sa mauvaise posture, puisque en rentrant au port, là, une fois la course terminée, on est arrivé au port de Brest. Des experts lui ont demandé d'expertiser la coque en question pour voir s'il y avait des traces, quel type d'attaque ça avait été, parce que ça reste quand même un événement un peu important. Et monsieur de Kersauzon n'a jamais répondu à ce message ni à aucune relance. Bon, ce qui est quand même un petit peu bizarre. Mais bon, on sait pas trop comment se positionner. Est-ce que le monsieur était de bonne foi mais n'avait pas le temps, ou est-ce qu'il a peut-être utilisé cet argument pour justifier une place un peu moyenne? On ne sait pas. Toujours est-il que oui.
Non, je disais, ce serait quand même fou de sa part d'avoir inventé une telle histoire.
Ce serait quand même fou, ouais. Ce serait quand même fou. Après, c'est difficile à dire. C'est parole contre parole dans ces cas-là. Et donc voilà, donc merci à Stéphanie de nous avoir apporté cet éclairage probable sur cette histoire. Un petit mot ensuite pour vous dire très rapidement que, à titre personnel, je lance ma chaîne Twitch. Oui, je joue beaucoup aux jeux vidéo, quoi qu'il en soit, et du coup je me suis dit, pourquoi pas jouer aux jeux vidéo, et que si des gens aient envie de me regarder en train de rager sur des jeux un peu durs, eh bien qu'on puisse au moins rigoler ensemble. Donc vous pouvez du coup me retrouver sur ma chaîne Twitch, donc c'est le même nom que mon pseudo Twitter, à savoir Haute Paramonia, O-D-D-P-A-R-A-M-O-N-I-A. J'ai réussi du premier coup, je suis content. Et donc voilà, n'hésitez pas soit à vous abonner, ou même mon compte Twitter sur lequel je poste les dates des lives en question.
Avant de passer au dossier du jour, enfin, une dernière chose, vous l'avez sans doute remarqué dans le dernier numéro qui a été diffusé sur cette chaîne, nous avons fait notre premier live au Paris Podcast Festival. C'était complètement fou, je pense qu'on l'a dit tous les deux sur les réseaux sociaux, on a vraiment passé un moment excellent en votre compagnie, vous, chers auditeurs. C'était assez irréel de vous rencontrer pour la première fois, de vous voir en vrai, de passer un moment avec vous. On n'a malheureusement pas pu parler avec tout le monde à la sortie de l'enregistrement, mais voilà, c'était vraiment très bien. On remercie encore une fois nos invités qui étaient là dans cette émission et qui ont vraiment apporté beaucoup d'histoires mystérieuses pour vous. Donc c'est très bien. Et maintenant, on revient à notre format habituel, notre petit bureau tranquille avec un numéro un petit peu spécial encore une fois.
Et oui, spécial, puisque l'on va parler d'animaux fantastiques tout au long des quatre histoires de cet épisode. Et on commence tout de suite avec notre première créature. Gros poisson et petite exagération. Canvey Island est une petite ville côtière anglaise située à 70 km à l'est de Londres, là où la Tamise s'infiltre dans le territoire anglais. Village paisible, au charme typiquement british, Canvey Island verra pourtant dans les années 50 une légende se construire autour de ce qu'on appelle aujourd'hui le monstre de Canvey Island. Nous sommes en novembre 1953. Les plages n'accueillent plus les badauds, nous sommes en plein milieu de la basse saison et ne subsistent dans le village que les habitants du coin. Ce sont eux qui, un jour de novembre, découvriront la carcasse d'une étrange créature. Visiblement ramenée par la mer, la bête est longue de 76 cm, possède une peau brune, limite rouge, et des yeux globuleux. Elle semble clairement abîmée par un long voyage. Deux autres de ses caractéristiques physiques alertent les habitants qui la découvrent. La chose possède deux pattes, à l'extrémité desquelles seraient visibles cinq orteils, ce qui semblerait indiquer un déplacement terrestre bipède. Mais on peut aussi observer sur ses côtés des branchies, soit la signature des animaux marins. Rapidement, deux zoologues se penchent sur la question, mais les seules conclusions que l'on connaît de leur analyse à ce jour est que la bête ne présente pas de danger, ni de risque particulier pour la population. Ils ont alors décidé de l'incinérer. L'histoire aurait pu s'arrêter là. Un poisson hybride étrange échoue sur une plage et c'est tout. Mais 9 mois plus tard, en août 1954, un deuxième spécimen est découvert. Lui aussi échoué sur les plages de Canvey Island. Découverte mardi 13 août par le révérend Joseph Overs, surnommé dans le coin Joe Overs, celui-ci décrit cette deuxième carcasse comme bien plus imposante que la première, puisqu'elle fait plus de 1,20 m de long et pèse 11,5 kg.
C'est un gros poisson.
C'est une grosse prise. C'est-à-dire que je sais pas si je serais capable de pêcher, de ramener quelque chose comme ça. C'est un gros poisson qui surtout, du coup, a quasiment les mêmes caractéristiques physiques, hein, avec une immense bouche, il fait un petit peu peur à la population. Et le révérend, d'ailleurs, ajoute quelques éléments à la description qu'il fait au journal local puisqu'il sera interviewé. Des yeux exorbités, une bouche immense, deux pieds sous son estomac avec encore cinq orteils chacun, soit une description très proche de la première créature. D'ailleurs, le journal ajoute qu'un poisson tout aussi particulier avait été retrouvé presque au même endroit. Donc il s'agit de deux poissons différents mais se ressemblant échoués au même endroit, ce qui confirme donc la première description. Aucune autre bestiole du genre ne sera plus jamais observée sur les plages de Canvey Island. Cependant, en 1999, soit 45 ans plus tard, le journaliste Nick Warren a enquêté pour le 14 Times, une publication spécialisée sur les phénomènes étranges et les faits divers paranormaux, et il a décidé d'enquêter sur ces soi-disant monstres. En dehors d'une coupure de presse, il ne va rien trouver. Aucun document officiel de la Plymouth Marine Biology Association Laboratory ni de la National Rivers Authority qui sont les deux agences qui s'occupent de recenser notamment les poissons et la faune locale. Rien n'identifie la créature comme une espèce ni connue ni inconnue. Aucune trace n'a été gardée de ces deux carcasses, si ce n'est une photographie.
Mais quelle idée d'incinérer ces bestioles où on ne sait pas ce que c'est, où ce sont visiblement des poissons avec des pieds, si j'ai bien compris.
C'est la description qui en est faite par les habitants, en tout cas.
C'est quand même fou de se dire qu'il y a une bestiole aussi étrange que ça, et qu'est-ce qu'on fait, le premier réflexe, on va l'incinérer. On ne va pas le garder pour l'étudier, par exemple.
Ça paraît étrange comme ça, oui, mais on étudie quoi? On étudie des choses qu'on ne connaît pas. En l'occurrence, la population n'avait pas l'air de connaître la race de poisson, mais visiblement, les personnes qui l'ont incinéré, les deux zoologues, n'ont pas trouvé forcément pertinent de garder ni d'étudier la carcasse, notamment aussi parce que la première était dans un sale état. Elle ne permettait pas forcément une étude en profondeur s'il y avait eu quelque chose à découvrir dessus. Donc en l'occurrence, ils ont peut-être gardé la deuxième carcasse un peu plus longtemps, mais la première ne valait peut-être pas grand-chose. Il a en revanche pu échanger, le journaliste Nick Warren, avec des personnes sur place qui lui ont expliqué que le monstre en question n'en était peut-être pas un. Pour certains locaux, il s'agissait peut-être d'une baudroie, tout simplement, aussi appelée diable ou crapaud de mer. Un poisson, on l'avoue, un petit peu flippant, mais qui correspond totalement à la seule photo connue du monstre. Alors, encore faut-il que la photo soit authentique, puisqu'elle aurait été prétendument prise en 1954, c'est particulièrement difficile à authentifier. Selon un site web d'archives de Canvey, elle aurait été prise par le révérend Joseph Overs lui-même. Donc si on peut remettre en doute son authenticité vu qu'elle circule souvent sans contexte, on apprend par exemple dans cette publication que le statut de révérend de ce cher Joe n'était sans doute pas tout à fait exact non plus. Il aurait été rajouté par Joseph au moment de l'interview par le journal, sans doute pour vouloir se donner un petit peu d'importance. Plusieurs personnes l'ayant côtoyé racontent aujourd'hui qu'il avait en fait un rapport assez distant avec la religion. Cela rajoute un peu, disons, au flou autour de cette soi-disant affaire et peut-être une tendance à l'exagération de la part de Joe. Il faudra finalement attendre.
Je vois où tu veux en venir de plus en plus. D'ailleurs, la photo, il faudra absolument qu'on la mette qu'on la mette sur Riviera Ferraille pour que nos auditeurs puissent se faire une idée d'à quoi ressemble la bête.
Il faudra finalement attendre Alwyn Wheeler, ancienne ichtyologue, décédée en 2005. Donc, l'ichtyologie, c'est la discipline des sciences naturelles qui s'attache à l'étude des poissons osseux et cartilagineux, donc des poissons qui ont des os et du cartilage. Il faudra attendre ce monsieur pour avoir une réponse quasi définitive. Hein. En fait, Alwyn Wheeler était un bonhomme sérieux. Il avait intégré dès 1950 le département de zoologie du British Museum à l'âge de 21 ans. Et il a passé toute sa vie, toute sa carrière au Natural History Museum. Il a même aujourd'hui une bourse de mobilité pour jeunes chercheurs qui porte son nom. Pour lui, le doute n'est pas vraiment possible. Il s'agit bel et bien, comme le déclaraient certains habitants, d'un anglerfish ou monkfish, soit en français d'une baudroie. La confusion sur les pattes arrière viendrait en fait d'une description un petit peu exagérée et serait bel et bien des ailerons et des nageoires que l'on observe sur les deux côtés de l'animal et non des pieds et non des membres inférieurs tels qu'on peut les retrouver sur les animaux terrestres. Une autre explication avance aussi qu'il s'agirait d'un batfish, donc un poisson chauve-souris, que l'on trouve couramment de couleur brune, donc ça correspondait aussi un petit peu, mais la description de la bête en général correspond quand même sacrément moins. Le changement de couleur, en fait, ou les problèmes d'identification par la population, serait plutôt attribué au fait que les carcasses ont passé beaucoup de temps en mer, et que leur dégradation leur a donné un aspect plus monstrueux, plus gélatineux, plus informe que ce à quoi peut ressembler une baudroie. Baudroie qui, on le rappelle, est quand même un poisson qui fait un petit peu peur. Il s'agit donc sans doute d'un poisson qui est en fait rarement observé sur les côtes, en tous les cas les côtes anglaises, et qu'on aurait eu du mal à identifier. Il reste cependant que le fait d'en avoir deux à des dates si rapprochées qui s'échouent sur les côtes est déjà aussi quelque chose quand même d'un peu exceptionnel en soi. Bon, après, on avoue que c'est un petit peu compliqué puisque les documents datant des années 50 et une seule photo existante, c'est relativement difficile, d'autant que j'ai pu rencontrer quand même 2-3 petites incohérences dans les différents textes que j'ai retrouvés qui parlent de ce monstre de Canvey Island. Il y a des incohérences ou plutôt des imprécisions sur les dates. On retrouve souvent les dates 1954-1955 alors on serait plutôt sur du 1953-1954. Il y a plein de petits trucs comme ça qui font forcément pas très très sérieux. Et beaucoup de ce qu'on appelle des vues d'artistes, des illustrations pour illustrer la bête qui sont en fait très très éloignées de la photographie et qui sont des interprétations assez libres finalement, des descriptions que l'on a pu trouver.
Il faut quand même préciser que le magazine qui relance l'affaire, donc plus de 40 ans après, si j'ai bien compris, Le 14 Times, ce n'est pas non plus le magazine le plus sérieux du monde.
Alors, ils ont visiblement quand même, ils ont fait leur travail sérieusement, puisque Nick Warren, le journaliste en question, a travaillé suffisamment sérieusement pour estimer qu'au final, il n'avait pas grand-chose à dire. Il allait quand même dans le bon sens en disant que, au final, il avait interviewé des personnes et que ces personnes-là lui ont juste dit que il s'agissait sans doute d'un poisson, certes un peu rare, mais certainement pas d'un monstre, et que lui est allé voir du côté des archives des deux agences pour finalement ne pas trouver grand-chose. Donc j'imagine que le texte était relativement honnête de ce point de vue-là. Malgré tout, je pense que on peut, sans trop de problèmes, classer cette affaire.
Oui, c'est ce que j'avais envie de dire également, oui. Je pense qu'on peut vraiment classer cette affaire.
Le monstre de Canvey Island n'était sans doute, du coup, qu'un gros poisson et affublé et du coup habillé de quelques exagérations.
Eh bien, écoute, c'est une très bonne conclusion pour ce dossier.
La créature d'Elmendorf. En 2004, des fermiers du sud du Texas ont été confrontés à une étrange créature famélique et assoiffée de sang. Et en croire certains d'entre eux, il s'agirait du mythique Chupacabra, le monstre qui fait frémir l'Amérique latine depuis plus de 20 ans. Un matin, au printemps 2004, Devin McAnally a eu une sinistre surprise en allant voir ses bêtes. Cet éleveur de volailles installé à Elmendorf, une petite ville du sud du Texas, a découvert un de ses poulets avec la gorge arrachée, baignant dans une mare de sang. La viande, selon lui, n'avait pas été entamée. C'était comme si une créature lui avait tranché la gorge pour seulement s'abreuver de son sang. Comme le rapporte un des journaux locaux, le San Antonio Courant, de nombreuses autres attaques de ce type ont suivi. Afin d'y mettre un terme et de sauver son élevage, Devin McAnally s'est emparé d'un fusil et a guetté le retour de la bête. Au début de l'été, après des jours passés à observer ses terres, sa patience a fini par payer. Une forme monstrueuse est apparue au petit matin. Elle avançait à quatre pattes et avait la forme d'un chien ou d'un coyote en très mauvais état. Elle était extrêmement maigre, avec une peau étrangement bleutée, et semblait prête à arracher la jugulaire d'un nouveau poulet. Et comme tout bon Texan qui se respecte dans cette situation, Devin McAnally a ouvert le feu. En observant la dépouille, le fermier a été pris d'un frisson d'angoisse. De près, la bête n'était pas si impressionnante, elle pesait seulement 9 kg et paraissait très frêle, mais ses longs crocs, ses pattes minuscules et sa queue fine comme celle d'un rat l'ont angoissé. Devin McAnally n'avait jamais vu d'animal ayant cette apparence. Il a alors pris une photo de cette créature et l'a affichée au marché de Léon où se croisent d'autres éleveurs de la région. Les théories sur l'origine de cette bête ont alors commencé à apparaître d'abord localement, puis se sont répandues sur le net avec parfois des hypothèses complètement farfelues. Certaines personnes ont d'abord sagement pensé qu'il s'agissait d'un croisement entre un loup et un coyote particulièrement agressif, mais leur ressemblance n'était pas vraiment frappante. Puisque la bête n'avait l'apparence d'aucun animal connu, des amateurs de théorie du complot ont imaginé que la créature d'Elmendorf était le fruit d'une expérience menée dans un laboratoire secret. Une espèce de Mewtwo, en quelque sorte.
Mais la théorie...
Voilà, mais c'est exactement ça qu'on a sur ces théories. Hein. C'est vraiment la créature croisement de plusieurs espèces dans un laboratoire secret. C'est vraiment Mewtwo. Mais la théorie la plus populaire n'était pas celle-là. Le cas de la bête d'Elmendorf ressemble énormément à un mythe qui est très ancré en Amérique latine, celui du Chupacabra. Et est-ce que tu connaissais, toi, le Chupacabra, Charles ?
Oui, je connaissais un petit peu. Au moins de nom. On ne s'est jamais rencontré, mais on n'a jamais eu l'occasion de se serrer la main. Mais oui, je connais un petit peu.
Alors, le Chupacabra, chez nous, pas énormément, mais c'est vrai qu'aux États-Unis et surtout voilà, en Amérique latine, c'est très très connu. C'est une créature légendaire qui s'attaque aux animaux et qui leur suce le sang. C'est une légende qui est relativement récente, puisqu'elle est apparue dans les années 90 seulement, et comme le relève la très sérieuse Encyclopédia Britannica, les premières observations ont été rapportées par la presse en 95 à Puerto Rico. La bête s'attaquait aux chèvres, aux moutons et à d'autres animaux réputés dociles et se contentait de boire leur sang.
Je pensais que c'était plus vieux, tu vois.
Oui, mais moi aussi, en fait, en faisant les recherches, je me suis rendu compte que c'était quand même relativement récent. En fait, il y a des mythes beaucoup plus anciens qui y ressemblent un petit peu, mais le Chupacabra en tant que créature suceuse de sang qui terrorise Puerto Rico, c'est vraiment à partir de 95 et ses premières observations dans la presse. On est vraiment plus dans la légende urbaine que dans le mythe ancien avec cette histoire. En fait, et comme la bête s'attaquait aux chèvres, et ben en fait, Chupacabra, hein, ceux qui ont fait espagnol LV2 le savent, au sens littéral, c'est suceur de chèvres, d'où le nom, en fait, parce qu'il s'attaquait à des bêtes dociles comme les chèvres. Alors, il est difficile de savoir exactement qui a inventé ce nom-là, hein, et qui en plus n'est pas tout à fait exact, puisqu'il ne s'attaque pas qu'à des chèvres, mais le nom est resté. Et si l'histoire du Chupacabra a particulièrement pris, c'est en partie parce qu'elle évoquait des mythes beaucoup plus anciens, comme je le disais, notamment une légende en Amérique latine sur l'homme moustique, qui drainerait le sang de ses victimes avec un énorme nez pointu. Donc on est toujours voilà, dans cette thématique-là. Après les premières observations à Puerto Rico, le Chupacabra est donc rapidement devenu une légende urbaine très populaire et toute attaque d'animal sans explication a commencé à être attribuée au Chupacabra. A partir de là, il aurait été aperçu en République Dominicaine, au Brésil, en Bolivie, au Mexique, bref, à travers toute l'Amérique latine et sous différentes formes. Car le Chupacabra a deux formes suivant les versions. La première le décrit comme une sorte d'énorme kangourou à écailles avec des yeux rouges, des épines dans le dos et une allure reptilienne. C'est ainsi qu'il aurait été observé pour la première fois à Puerto Rico en 95. Mais tous les témoignages qui le décrivent comme ça sont sans doute totalement faux. En fait, dans un livre consacré au Chupacabra, Benjamin Radford, qui est le chef d'édition du Skeptical Inquirer, donc qui est un journal sceptique comme son nom l'indique, ce monsieur a mis en avant une information très intéressante. En fait, en 95, juste avant les premières apparitions de la bête, le film La Mutante était sorti au cinéma. Et comme par hasard, les premiers Chupacabra ressemblaient exactement à la méchante du film. Donc on peut déjà écarter tout ça. Vraiment, j'ai regardé le comparatif entre les vues d'artiste du Chupacabra et la bestiole du film La Mutante. C'est exactement la même chose. Donc pour le coup, on peut faire le parallèle entre ces deux-là. En revanche, il y a une deuxième description du Chupacabra qui est très différente, où cette fois-ci, il est question d'une espèce de chien famélique à quatre pattes, donc. Ces bêtes-là n'ont pas de poils, elles ont des crocs acérés et correspondent donc à la description de la créature d'Elmendorf. Il y a plusieurs chupacabras de ce type qui ont été observés dans les années 2000 au Mexique et dans le sud des États-Unis, surtout au Texas. Mais en dépit des témoignages qui ont été recueillis par la presse locale, il ne faut pas se leurrer, le chupacabra ça reste avant tout une légende et la créature d'Elmendorf n'en est pas un. Mais le mystère plane encore sur sa vraie nature. Le chupacabra qui a été abattu par chupacabra avec des grands guillemets évidemment, qui a été abattu par Devin McAnally en 2004, a bien évidemment été analysé. En raison de problèmes de conservation, d'échantillons d'ADN corrompus, on n'a pas pu déterminer son espèce exacte. Par contre, une chose est sûre, il s'agit d'un canidé. La forme de son crâne et sa queue très fine, assez caractéristique, font penser à une espèce, le chien nu mexicain. Cette race de chien, qui est relativement rare même au Mexique, contrairement à ce que son nom dit, hein, a pour la particularité de ne quasiment pas avoir de poils. Et c'est une race de chien qui a aussi une aura un petit peu mystique, puisque dans les traditions méso-américaines, sont des chiens qui conduisaient les morts vers l'au-delà. Ils étaient aussi sacrifiés par les Aztèques lors de leurs rites funéraires.
Ah mince.
Donc, malheureusement. Donc voilà, ce sont des chiens qui ont une aura comme ça un petit peu spéciale, mais là l'hypothèse la plus probable ce serait que ce chupacabra texan aurait été en fait un chien nu mexicain, qui aurait été affamé et malade, ce qui explique son état d'extrême maigreur et sa peau qui avait l'air de partir un petit peu en lambeaux. En fait, il pourrait s'agir de ce chien atteint d'une forme sévère de gale. Parce que la perte de poids et les déformations physiques qui sont dues à la gale peuvent expliquer l'apparence inquiétante de la créature d'Elmendorf, et ça expliquerait aussi pourquoi il s'attaquait à du bétail, puisque un chien rongé par la gale est trop faible pour chasser des animaux sauvages. Donc c'est une explication qui est plutôt cohérente, plutôt plausible.
Le bétail, ça reste quand même des gros animaux, non ?
Ah non, mais là, en l'occurrence, on était plutôt sur de la poule. Hein, donc c'était vraiment, okay.
vraiment des
poules. Oui, c'est un éleveur de volailles, hein, David McAnally. Je ne sais pas si je l'avais précisé. Mais en fait, et c'est pas le seul à avoir eu affaire à ce genre de bestiole, David McAnally, puisque tout au long des années 2000, il y a eu d'autres cas similaires à celui de la créature d'Elmendorf à travers tout le Texas. En août 2005, notamment, il y a la chaîne locale NBC4 qui avait raconté l'histoire d'un fermier qui s'appelle Reggie Lago. Et comme Devin McAnally, il a vu ses poules et ses dindes succomber les unes après les autres à la suite de mystérieuses attaques. Et lui aussi a tiré sur une créature qu'il a ensuite décrite comme un mélange entre un rat, un chien sans poils et un kangourou. Et donc pour lui, c'était un chupacabra, évidemment. Et c'est pas tout, en 2007, plusieurs créatures similaires à celles d'Elmendorf et donc à celles de Reggie Lago ont été aperçues. C'était près de Cuero, toujours au Texas, et cette fois-ci on les a appelés les chiens bleus du Texas, parce que leur peau était, à en croire les témoignages, dure et lisse comme celle d'un éléphant et légèrement bleutée.
C'est stylé comme les chiens bleus du Texas.
Ouais. Ah, c'est super classe. Et il y a eu un petit détail d'ailleurs sur cette espèce en particulier, plutôt romanesque et sans doute largement exagéré, hein, c'est qu'ils avaient les yeux d'un bleu intense et un regard pénétrant.
Oh.
Donc voilà, ça ce sont les témoignages, hein, évidemment. Alors, la créature d'Elmendorf, est-ce une affaire classée ? J'aurais envie de dire oui, car bon, déjà le Chupacabra reste avant tout une légende. Et j'ai consulté des photos de chiens nus mexicains sur Google Images pour aller voir à quoi ça ressemblait, je connaissais pas du tout. Bah écoute, je connaissais pas du tout, donc je me suis renseigné un petit peu, je voulais voir à quoi ça ressemblait, et effectivement, il y a une très très grosse ressemblance avec la créature d'Elmendorf, hein, puisqu'il y a des photos. La photo qui a été prise par David McAnally a été mise en ligne par la presse locale. D'autant plus que, effectivement, les chiens nus mexicains peuvent avoir des reflets un peu gris-bleu, comme d'autres espèces, hein, comme par exemple les braques de Weimar ou certains staphys, qui peuvent avoir des reflets bleus dans les poils. Donc oui, pour moi, ce sont des chiens nus mexicains très malades, maigres et sans doute déformés par la gale. Pour moi, c'est ce qui explique cette mystérieuse créature.
D'accord. C'est une combinaison qui est un petit peu improbable, mais qui n'est absolument pas impossible.
Exactement, ouais, c'est ça. Surtout que y a quand même eu... je sais pas, on va partir sur peut-être une douzaine de phénomènes, enfin d'apparitions de ces mystérieuses créatures qui sont apparentées au chupacabra. Mmh. Une douzaine, ça me semble pas non plus fou. C'est-à-dire que tu prends des chiens errants qui ont cette apparence, et puis là, c'est les créatures qui ont été observées de près, hein, qui ouais. ressemblent à des chiens du Mexicain. Il faut pas oublier qu'il y a des créatures qui ont été observées de loin. C'était peut-être d'autres races de chiens, elles aussi très amaigries et très malades, quoi. Donc c'est possible, ce ne sont pas peut-être pas forcément tous des chiens nus mexicains. Mmh. Pour moi, voilà, c'est peut-être l'hypothèse la plus probable, ce serait que ce soit des chiens ou des coyotes dans un état assez grave, qui se sont attaqués à des petits animaux parce qu'ils ne pouvaient plus chasser ou se nourrir autrement, quoi.
D'accord, donc pour toi, c'est plutôt une affaire classée.
Pour moi, c'est plutôt une affaire classée. Le chupacabra, d'ailleurs, en termes de degré de mystère, c'est un des cas de cryptozoologie, personnellement, hein, mmh. qui, je pense, qui laisse le moins de place au doute. Parce que ce soit la forme vue à Elmendorf ou la forme qui est attribuée au film La Mutante, il y a à chaque fois une explication, en fait.
D'accord. Ok, très bien. Voilà. Et ben, du coup, je pense qu'on peut refermer le dossier tranquillement. Je veux dire que tu as résolu cette affaire.
Oh, écoute, c'est seulement c'était moi qui l'avais résolu. Mais bon, effectivement, c'est une affaire qui, pour moi, n'est aujourd'hui plus très mystérieuse et qui peut s'expliquer par plusieurs facteurs.
D'accord, très bien. Eh bien, affaire classée, alors.
Affaire classée.
Le dévoreur de bergers. Entre le 30 juin 1764 et le 19 juin 1767, une centaine de personnes ont perdu la vie en France entre les crocs et les griffes d'une bête féroce. Dans une région verte et agricole, couverte de pâturages, aujourd'hui à cheval entre la Lozère et la Haute-Loire, va naître un fait divers tout à fait particulier qui confine à la psychose. Celui de la bête du Gévaudan.
Tant, tant, tant. Gros dossier.
Il s'agit,
hein.
Eh oui, un très gros dossier, puisqu'il s'agit sans doute d'un des monstres les plus célèbres en France. La région du Gévaudan, qui est alors propice au mystère et aux peurs, hein, puisqu'on peut entendre les échos des hurlements des loups sauvages la nuit tombée sur les plateaux. Ces mêmes plateaux qui cumulent forêts denses et rochers massifs. Et c'est au début de l'été 1764 que démarre cette histoire, quand une fermière, qui gardait son troupeau, rentre dans son village, apeurée. Elle affirme avoir été attaquée par une bête féroce. Si elle s'en sort avec seulement quelques vêtements déchirés, c'est parce que ses vaches ont chargé et éloigné ce qu'elle qualifie alors de grosse bête. Quelques jours plus tard, le 30 juin, dans un village voisin, Jeanne Boulet aura beaucoup moins de chance. Le cadavre de l'adolescente, âgée de seulement 14 ans, est retrouvé partiellement dévoré. Elle sera la première victime officielle de la bête du Gévaudan. C'était une pratique courante à l'époque, hein. Le premier travail des enfants et adolescents était de garder des troupeaux qui parfois étaient distants des villages. Le 8 août 1764, trois bûcherons de la même région sont alertés par un troupeau de moutons qui dévale une colline à toute vitesse. Ils montent au sommet de la colline pour comprendre ce qui a bien pu les effrayer et découvrent alors le cadavre, encore une fois partiellement dévoré, d'une jeune fermière de 15 ans. On distingue cette fois-ci distinctement des marques de crocs à divers endroits du corps, notamment sur le cou et la poitrine. Ces attaques pourraient facilement s'expliquer par le simple fait que les loups étaient au nombre de 20 000 en France à cette époque. Mais plusieurs éléments posent question. Nous sommes en plein été. Il y a suffisamment d'animaux sauvages et de gibier pour ne pas attaquer les humains, d'autant que les loups habituellement nous craignent, globalement. Aussi, pourquoi s'en prendre à la bergère alors qu'un troupeau entier de moutons se trouve à sa disposition? Face à ces premiers morts, des battues sont organisées. La bête est parfois aperçue de loin, mais rien n'y fait. Les morts continuent de pleuvoir et, fait étrange, se rapprochent des villages, alors que les loups ont la réputation de systématiquement éviter ces zones et se baladent en meute. La prochaine victime, une femme de 36 ans, sera tuée jusque dans son potager. Les lieux des morts sont parfois séparés de plusieurs kilomètres, mais la description de l'animal est toujours la même. Il est seul, il est massif. Une couleur un peu étrange pour un loup, puisqu'il oscille entre le roux et le brun. Il est particulièrement velu, avec une crinière noire et des rayures sur le dos. Il a une gueule énorme, plus large que la moyenne des loups, et de très longues griffes. Il s'attaque aussi particulièrement aux enfants et aux femmes. Si certains arrivent à le repousser grâce à des objets contondants ou même des tirs d'armes à feu à bout portant pour certains cas, ou parce que les cris des victimes ont alerté les personnes alentour, le bilan s'alourdit. À la fin de l'année 1764, on compte 14 morts et 13 blessés graves et pas moins de 20 attaques en 2 mois. D'autres battues vont être organisées. On va tenter d'empoisonner du gibier laissé dans la forêt pour tuer la bête, mais celle-ci ne se fait pas prendre au piège et reste toujours introuvable. Les premières légendes, qui vont perdurer pendant des siècles, vont naître à ce moment-là. La bête est rapide, féroce et particulièrement résistante. Les histoires parlent alors d'hommes-loups qui pourraient changer d'apparence ou de sorcellerie pendant que le clergé parle de punition divine. Le 21 septembre 1765, alors que les battues s'intensifient et qu'une prime a été mise sur la tête de l'animal par le régime en place, un loup particulièrement massif est tué par un envoyé du roi Louis XV. Les attaques vont cesser pendant 2 mois. Vous vous en doutez, cependant, celles-ci reprendront et ne cesseront qu'en juin 1967, quand un chasseur, qui avait fait fondre des médailles de la Vierge pour les transformer en munitions, parvient à tuer la bête au pied d'une montagne.
C'est très Van Helsing dans l'esprit. Hein.
C'est complètement Van Helsing. C'est peut-être un ancêtre, l'arrière-arrière-arrière-grand-père de Van Helsing. Quoique non, en fait, Van Helsing n'était peut-être pas... Il n'était pas non plus si éloigné de cette époque-là, je ne sais plus. Je n'ai plus l'histoire de Van Helsing en tête. Toujours est-il que le cadavre du monstre donne raison aux différentes descriptions. À la pesée, son poids culmine à plus de 53 kg, alors qu'on mesure sa hauteur à épine dorsale à 77 cm et que ses crocs approchent les 4 cm. Des caractéristiques qui, cependant, sont relativement normales pour un loup mâle adulte. Sa couleur, en revanche, comme je le disais, tend vers le roux et le distingue des autres loups de la région. Ses pattes, avant surtout, sont plus courtes que celles des loups, et sa mâchoire beaucoup plus large est identifiée aussi comme beaucoup plus puissante. Des traces de balles et de coups laissent penser qu'il s'agit bien de la bête recherchée. Ce que confirmera d'ailleurs l'autopsie, puisque un fémur d'enfant, correspondant à l'âge de la dernière victime, sera retrouvé dans sa panse. Les attaques cessent immédiatement, mais l'attitude extrêmement agressive et solitaire de la bête pendant toutes ces années continue de poser question, tout comme sa résistance aux précédentes balles de fusil. Pour la nature douteuse, disons, de la bête, il ne s'agit pas d'une simple croyance locale ou de faits rapportés qui auraient été exagérés, mais de descriptions avérées et partagées, puisque même les personnes qui ont participé aux battues qui venaient de divers endroits de la France, quand ils ont aperçu la bête lors de ces événements, ont aussi affirmé qu'il ne s'agissait pas d'un loup, ou en tout cas pas d'un canidé connu. Même le chirurgien va affirmer que l'arrière ressemble à un loup, mais les muscles de l'avant sont plus développés que chez les canidés habituels et que les pattes avant sont plus musclées qu'à l'ordinaire. Une théorie va alors émerger dans les décennies et les siècles suivants. On pense à un autre animal qui n'est absolument pas courant, même pas présent en France, ni à l'époque ni aujourd'hui, une hyène. Plusieurs autres théories ont occupé les chercheurs et auteurs pendant des années. Avait-on équipé la bête d'une peau tannée pour la rendre plus résistante aux balles? Des plaques en fer, quelqu'un lui aurait posé des plaques en fer pour la rendre plus résistante, mais dans ce cas, qui aurait pu l'approcher? Un maître malveillant qui l'aurait dressé pour tuer? En fait, les armes à feu de l'époque auraient pu abattre l'animal. Mais dans la précipitation, les armes étaient souvent mal chargées, la poudre était trop compressée et souvent les armes étaient mal utilisées, ce qui explique que les tirs n'étaient pas forcément mortels. Autre donnée importante, les paysans n'avaient pas le droit de posséder d'armes à cette époque, lorsque les battues ont été organisées. Ils avaient en fait peu de chances de maîtriser une arme qu'ils ne maniaient jamais, donc ils tiraient souvent à côté, au-dessus, et en fait ce que prenait l'animal c'était seulement des éclats de projectiles et jamais le projectile plein pot. Autre théorie ou autre chose qui prête à discussion, les décapitations, puisque plusieurs des cadavres qui ont été retrouvés, et notamment les cadavres d'enfants, étaient retrouvés décapités. On a supposé, pendant un temps, qu'il s'agissait peut-être d'un tueur humain qui se déguisait ou qui cherchait à faire peur, parce qu'on pensait que les loups, ou les canidés en général, n'étaient pas forcément capables de démembrer une personne de manière aussi nette, d'arracher la tête de manière aussi nette. En fait, après quelques recherches, on peut se rendre compte que un loup, ce n'est pas un chien. Un chien a une pression d'environ 60 kg par centimètre carré lors d'une morsure. Un loup a une pression deux fois plus puissante, puisqu'il peut atteindre 130 kg de pression par centimètre carré. Or, en secouant un petit peu sa victime, on se rend compte que c'est relativement facile pour un canidé de ce type, entraînant un enfant par le sol, de lui arracher la tête. Autre élément qui vient contredire cette théorie, c'est quelque chose qui a déjà été vu. Il y a une bête aussi dans le Dauphiné cette fois qui laissera ses cadavres décapités et ce sera exactement pour les mêmes raisons. Pour les lieux des attaques, d'autres cas ont été recensés dans d'autres régions comme dans le Dauphiné où des bêtes, la plupart du temps des loups, ont attaqué principalement des enfants près des fermes et des villages, donc qui se rapprochaient des zones de population qui étaient normalement évitées. Donc ce n'est pas non plus un cas 100% isolé. Pour les cibles, enfin, à l'époque, les jeunes garçons et filles et les femmes se voyaient souvent confier le travail de mener un troupeau. Elles faisaient donc en fait des cibles privilégiées, puisque les personnes qui étaient attaquées étaient physiquement assez fines, ce qui aux yeux de l'animal faisait des proies plus faciles que notamment les troupeaux qu'elles dirigeaient. Enfin, une des dernières pistes en date est celle de l'auteur Pierrick Guitaut, qui parle d'une race qu'on ne connaît que très peu, celle du loup cervier. Parce que si vous vous rappelez bien, je vous ai dit que l'animal pouvait avoir de loin l'apparence d'un loup, mais en fait ne lui ressemblait non plus pas tellement de près. Et bien en l'occurrence, il semblerait qu'il s'agisse d'un hybride potentiellement très rare entre un loup et une bête disparue il y a 10 000 ans, dont la description correspond comme deux gouttes d'eau avec celle de la bête du Gévaudan. Une de ces bêtes est d'ailleurs exposée au musée de la nature du Valais en Suisse. Et d'ailleurs, à noter qu'il y a des cas similaires qui ont été recensés également en Suisse. Donc on est relativement d'accord pour dire qu'il ne s'agissait pas d'un loup, parce qu'on a beaucoup d'illustrations, même d'époque, hein, c'est quelque chose qui a été particulièrement commenté par la presse et particulièrement illustré dans la presse. On a des illustrations qui font ressembler le monstre à un chien, un gros chien ou un loup. En fait, il est très probable que c'était un hybride qui existe vraiment, mais qui appartient à une famille de canidés extrêmement rare. Hein, je rappelle qu'il y a quand même une trentaine de canidés hein, en tout, et dont le loup cervier peut faire partie et pourrait en partie correspondre à la description qui a été faite de la bête du Gévaudan. Il n'en reste quand même que le nombre phénoménal de morts qui a été enregistré, des nombres entre 88 et 124 morts et une soixantaine de blessés sur les années où la bête a sévi, ça reste un nombre de morts complètement phénoménal et surtout sur une zone aussi restreinte. Toujours est-il que c'est une bête qui a animé la culture et même la pop culture, jusqu'à aujourd'hui, hein, et on compte même, je sais pas si vous avez vu le film Le Pacte des Loups, hein, qui est sorti en 2001. Bon, l'explication donnée par Le Pacte des Loups est, en termes scénaristiques, un petit peu problématique, mais c'est une histoire qui a nourri le paysage français autour des animaux fantastiques.
Mais écoute, merci pour cette histoire que je ne connaissais que très peu. Je dois avouer qu'en fait, la bête du Gévaudan, c'est vraiment un des plus grands mystères français, mais sur lequel je m'étais jamais penché. Ouais. Étonnamment, j'avais entendu cette théorie, tu pourras sans doute me dire si c'est juste totalement faux ou pas, sur laquelle ça aurait pu être un lion, c'est ce que j'avais entendu aussi.
Alors ça, c'est complètement farfelu. Il n'y a aucune raison. En fait, il y a une autopsie qui a été pratiquée sur l'animal. Donc, si ça avait été un animal ne serait-ce qu'un peu connu, on l'aurait identifié tout de suite. Non, là, la description qui a été faite pendant l'autopsie, et c'est ça qui est particulier, c'est qu'elle correspond aux descriptions des personnes. Et que même les personnes qui ont... Même le chirurgien, quand même, un homme de science qui a autopsié l'animal, n'a pas réussi... À le rapprocher, il le rapprochait évidemment du loup, c'était peut-être l'animal qui était le plus proche en termes physiques, mais il avait des caractéristiques, notamment au niveau de la largeur de la mâchoire, de ses courtes pattes avant, de sa musculature, qui faisait qu'il n'appartenait pas à 100% aux familles de loups qui étaient connues en France et dans la région. Donc c'est pas un animal farfelu, disons, si on peut dire les choses comme ça. Pareil, la hyène, ça aurait été quelque chose qui était probable, mais il n'y avait pas... Enfin, c'était pas un animal qui était suffisamment présent pour que ce soit le cas en France.
Mmh. Donc du coup, pour toi, l'affaire est plutôt classée, ce serait peut-être un loup-cervier, comme le disait cet auteur qui en parlait récemment.
C'est une des thèses les plus récentes. Et c'est une des thèses les plus récentes, et je trouve que c'est une thèse qui reste quand même assez convaincante, parce que les études, l'enquête que Pierre Guiteau a menée, elle est assez intéressante. Il a reproduit plein de choses. C'est lui, par exemple, qui explique que les armes étaient mal chargées à l'époque, et que ça explique... que les tirs, même à bout portant, n'aient pas tué l'animal, c'est que les armes étaient chargées, et lui-même a fait des tests, en fait, pour savoir si recouvrir, disons, pas un animal, il tirait pas sur des animaux, mais si recouvrir une surface d'une peau tannée de sanglier, par exemple, ça pouvait réduire l'impact des balles de fusil, à pas du tout. Il y a absolument aucune chance pour que même une armure en fait métallique, même des plaques de fer posées sur l'animal n'auraient pas arrêté les balles si elles avaient été correctement tirées. Donc il s'agit plutôt d'un problème d'ordre là pour le coup général de mauvaise utilisation des armes pendant les battues, hein, puisque pendant les battues il n'y avait que quelques vrais chasseurs, mais la plupart du temps c'était des paysans qui ne savaient pas forcément utiliser les armes, et on voit bien que quand il y a quelqu'un de plus aguerri qui s'immisce dans ces battues-là, bah ils en ressortent quand même avec des loups morts. Pas forcément les bons, mais ils en ressortent avec des loups morts. Donc voilà, pour moi, ça reste une affaire qui a quand même un niveau de mystère vraiment élevé, parce que on est quand même, pour l'année, on est en 1764, et en 2017, on a encore des théories potentielles qui viennent s'ajouter à celles des historiens, à celles des chercheurs qui avaient déjà précédemment travaillé sur le dossier. Donc ça reste quand même quelque chose de particulièrement mystérieux.
Dans ces conditions, on ne classera pas l'affaire, du coup.
Ouais, je pense qu'on peut laisser le dossier un petit peu ouvert.
L'homme papillon de Pointe-Pleasant. Cela fait déjà plus de 50 ans que les habitants de la petite ville américaine de Pointe-Pleasant cohabitent avec le Mothman, une inquiétante créature aux yeux rouges et aux ailes immenses. Son règne de terreur a commencé une nuit de novembre en 1966. Alors, on en a un petit peu discuté avant l'enregistrement, mon cher Charles, toi tu n'as jamais entendu parler du Mothman de Pointe-Pleasant.
Ah, jamais, ouais. Non, c'est...
Et je peux le comprendre.
Ah,
parce
d'accord.
Parce que ici en France, en fait, il est assez peu connu. Mmh. Mais aux États-Unis, dis-toi qu'il est aussi célèbre que le monstre du Loch Ness ou la bête du Gévaudan. C'est même l'attraction principale de Pointe-Pleasant, une petite ville de Virginie-Occidentale dans l'est des États-Unis. Cette petite ville, elle est traversée par le fleuve Ohio et se situe au sud de la région des Grands Lacs, près de Cincinnati. Et au début des années 60, Point Pleasant était une ville tranquille, avec ses petits commerces et sa jeunesse qui passe ses soirées au drive-in. Mais tout a basculé lors de la première apparition du Mothman, qui a eu lieu dans la nuit du 14 au 15 novembre 1966. Cette nuit-là, deux jeunes couples roulaient dans les bois près de Point Pleasant dans une zone bien connue des habitants de la ville. Surnommée la TNT Area, cette zone était celle où avaient été implantées des usines fabriquant des explosifs pendant la Seconde Guerre mondiale. Il y avait, en 1966, beaucoup de résidus toxiques dans cette partie des bois, ce qui la rendait sur le papier assez peu fréquentable, mais en fait c'était l'endroit rêvé pour les jeunes qui voulaient se rapprocher à l'ombre des arbres sur les sièges de leur voiture. Mais ça, ce n'était pas le cas, du moins pas ce soir-là, de Linda et Roger Scarberry, un jeune couple marié d'à peine 19 ans. Parce que cette nuit de novembre, ils passaient juste du temps en compagnie d'un couple d'amis, Marie et Steve Mallette. Ce petit groupe avançait dans l'obscurité sur un des chemins de la TNT Area, à bord d'une Chevrolet noire de 1957. Il était environ minuit, lorsqu'une apparition a bouleversé leur vie. J'ai pu consulter la déposition qui a été faite auprès de la police par Linda Scarberry. En fait, elle est disponible au musée de Point Pleasant, et elle a été, pour notre plus grand plaisir, j'ai envie de dire, numérisée. Donc je vais pouvoir vous raconter maintenant, avec les mots de Linda, la toute première apparition du Mothman. Nous étions en train de rouler à travers la TNT Area près de la vieille centrale électrique aux alentours de minuit, ce mardi 15 novembre, quand Steve nous a dit, en criant, de regarder cette chose sur la route. Je l'ai regardé et je l'ai vu marcher à l'angle de la centrale. Elle ne courait pas mais dodelinait, comme si elle avait du mal à garder l'équilibre. Ses ailes étaient légèrement écartées. Roger, qui était au volant, a accéléré. On n'a même pas ralenti dans les virages. Nous sommes arrivés sur la route 62, la chose était assise sur une des collines. À l'instant où nos phares l'ont éclairée, elle a disparu. Ça c'est que le début, puisque le témoignage continue. La chose a écarté ses ailes et pris son envol. Elle volait au-dessus de notre voiture. Nous devions rouler à environ 160 km/h sur cette petite portion de route, et cette chose continuait à nous suivre, planant à l'avant et à l'arrière de la voiture. Je pouvais entendre ses ailes battre les airs, comme si elle essayait de prendre de la vitesse. Puis elle a disparu lorsque nous sommes arrivés près des lumières de la ferme de Cici Lewis. À ce moment-là, les quatre amis ne savent pas ce qu'ils doivent faire, ils se demandent s'ils doivent contacter la police, mais ils ont peur d'être pris pour des fous. Parce que c'est vrai que s'ils commencent à raconter qu'ils ont été pris en chasse par une mystérieuse créature volante, ça peut paraître un petit peu étrange. Alors ils prennent une décision que je ne m'explique pas. Ils y retournent, pour être bien sûr de ce qu'ils ont vu.
Pourquoi ouais, tu ne l'expliques pas?
Bah écoute, je pense que si ça avait été notre cas, on aurait pris la bagnole et on serait parti très très loin, très vite.
Oh, tu vois, j'aurais été un peu curieux quand même.
Bah écoute, tu aurais pris la décision qu'ils ont prise ce soir-là. Après plusieurs allers-retours, ils ont décidé d'y aller vraiment, quoi.
J'ai envie de te dire, comme c'est moi qui ai le permis.
Ah oui, du coup, j'aurais été obligé de subir. Et on se serait retrouvé avec le Mothman à Point Pleasant.
Voilà.
Écoute, rappelle-moi de ne pas aller à Point Pleasant avec toi. En tout cas, ils y sont retournés et ils se sont installés au milieu de la route en attendant le retour de la chose. Alors je reprends le témoignage de Linda. Nous étions assis là, lumière éteinte, depuis 15 ou 20 minutes, lorsque j'ai entendu un couinement, comme celui d'une souris mais beaucoup plus fort. Une ombre a traversé le bâtiment sur la colline devant nous. Nous avons alors vu ses yeux rouges. Alors je crois que le moment est venu de parler de l'apparence du Mothman. Les quatre témoignages concordent, à la fois sur le déroulé de la soirée et sur la description de la créature. Alors voici celle qu'a donnée Roger Scarberry, le mari de Linda. Cette chose faisait environ 1m80 et avait de grandes ailes dans le dos d'à peu près 3m une fois dépliées. Elle avait une forme humanoïde. Elle avait deux yeux rouges d'environ 5 cm de diamètre et espacés de 15 à 20 cm. Ses yeux ont particulièrement impressionné Linda qui a donné d'autres détails sur le Mothman, voici son témoignage. On aurait juste dit un homme avec des ailes de couleur grise qui lui recouvraient le dos. Il avait des jambes musclées semblables à celles d'un homme et des yeux d'un rouge étincelant qui brillaient lorsqu'ils étaient pris dans la lumière. Je n'ai pas pu voir sa tête ou ses bras. D'ailleurs, je ne suis même pas sûr que ses yeux étaient sur une tête. Linda a été traumatisée par ce qu'elle a vu. Après avoir pris la fuite avec ses amis et son mari, elle a été conduite à l'hôpital et a eu de lourds troubles du sommeil par la suite. Les quatre amis ont juré qu'ils n'étaient pas alcoolisés cette nuit-là. Ils ont toujours maintenu leur version. Et leur version a été corroborée par un autre témoignage venu d'autres habitants de Point Pleasant, qui ont juré l'avoir vu quelques jours plus tôt. À compter de là, énormément de témoignages plus ou moins fiables hein, se sont ajoutés à l'affaire. Mais aucun n'a été aussi « réaliste » entre guillemets que celui des Scarberry et des Mallettes. C'est pour ça que leur témoignage est aujourd'hui considéré comme le vrai témoignage original du Mossman. Alors évidemment, la presse locale s'est emballée très très vite. Hein. Dès le 16 novembre, le Point Pleasant Register écrit notamment un article qui s'intitule « Des couples voient un oiseau de la taille d'un homme, une créature, quelque chose ». Okay. C'est un titre assez vague, on va pas se mentir, mais je trouve ce titre très drôle. Mais il y a un truc intéressant dans cet article, c'est que les Scarberry et les Mallettes précisent qu'il ne s'agit pas d'une soucoupe volante. Et ça, c'est assez important. La précision était utile à l'époque, puisque nous étions en plein phénomène OVNI aux États-Unis depuis près de 20 ans. Parce que oui, Roswell, c'était en 47. Et justement, les OVNI sont très vite venus se greffer à cette histoire de monstre volant. Parce que bon, le Mossman aurait pu rester un monstre assez banal du folklore américain ou juste une petite légende urbaine locale assez sympathique, mais un événement qui est survenu l'année suivante, en 1967, lui a donné une toute autre dimension. Le 15 décembre 1967, le Silver Bridge s'est effondré. Ce pont, qui est situé tout près du lieu des apparitions du Mossman, a sombré dans la rivière Ohio. 46 personnes sont mortes dans cet accident. Et comme souvent dans ce genre de cas, des théories du complot ont commencé à apparaître. Deux livres sont sortis à 5 ans d'intervalle et ont fait du Mossman une légende nationale. Le premier, c'est The Silver Bridge de Gray Barker en 1970, et le deuxième, sans doute le plus important, c'est The Mossman Prophecies en 1975, écrit par John Akeel. Cet homme, qui se présente comme un journaliste, a mis au point une impressionnante théorie du complot qui explique que le Mossman est relié à l'effondrement du pont. Il assure également que de mystérieux hommes en noir se seraient rendus à Point Pleasant à la fin des années 60, et que des phénomènes paranormaux comme des poltergeists auraient été relevés dans la région. Dans ce livre-là, on apprend également que des personnes auraient fait des rêves prémonitoires en voyant des morts dans la rivière Ohio avec des paquets de Noël qui flottaient dans la rivière, ce qui concorderait avec l'accident qui a eu lieu le 15 décembre 1967. Alors ce livre-là est un pur produit de la paranoïa ambiante sur les extraterrestres et les secrets du gouvernement qu'il y avait aux États-Unis au début des années 70. Il a été traduit en français sous le titre La Prophétie des Ombres, et ce nom vous dit peut-être quelque chose puisque c'est aussi celui d'un film avec Richard Gere qui est sorti en 2002. Et comme par hasard, c'est cette année-là, en 2002, que toute la ville de Point Pleasant a sauté à pieds joints dans le monde merveilleux du tourisme noir. Et oui, parce que le Mossman est aujourd'hui un vrai business à Point Pleasant. Il y a un musée consacré à la créature et aux théories du complot qui l'entourent, évidemment. Ce musée-là a ouvert en 2002, l'année de sortie du film avec Richard Gere, et une boutique de souvenirs très fournie existe à l'intérieur du musée. L'année suivante, en 2003, une statue représentant le Mossman a même été érigée juste à côté du musée, et la ville organise chaque année son festival du Mossman, qui attire des milliers de personnes. Alors j'ai regardé une vidéo de BuzzFeed Unsolved, je crois que j'ai déjà dit dans cette émission que j'aimais bien ce show américain, ils ont fait une vidéo sur Point Pleasant, et on peut voir dedans que le merchandising est assez hallucinant. Il y a des cookies Mossman, il y a des petits objets, il y a des trucs en bois, tu sais, c'est où tu peux te faire prendre en photo dedans, tu mets ton visage à la place du visage de la créature. Donc voilà, il y a ça, des formes en bois comme ça pour se faire prendre en photo, qui représentent le Mossman. Des pizzas Mossman, hein, avec les ailes en champignons et les pieds en poivron. Du café Mossman, enfin bon, c'est la mascotte et c'est le gagne-pain de toute une ville. En fait, c'est même leur seul atout touristique, hein, parce qu'il n'y a pas grand-chose à faire à Point Pleasant. Ils l'exploitent à fond. Pourtant, voilà, hein, cette histoire est très très largement discutable, évidemment. Donc, pour débunker un petit peu l'affaire, je vais volontairement déjà mettre de côté l'intégralité des éléments conspirationnistes et liés aux ovnis, pour me concentrer sur la bête en elle-même, parce qu'en fait, le Mossman peut être énormément de choses, en fait. Pour certains cas, ça peut être des blagueurs déguisés, puisque l'affaire a pris énormément d'ampleur à partir du témoignage des Scarberry et des Mallettes. Donc à partir de là, il y a eu des pranks, hein. C'est avéré, il y a eu des canulars. Pour d'autres cas, c'est aussi de l'ordre du canular, ce pourrait être des ballons à l'hélium avec des lumières rouges accrochées dessus. Il y a le patron d'un hôtel du coin qui a confié au débunker Johnny Kell qu'il l'avait déjà fait. Donc voilà, il y a eu des cas de ballons à l'hélium avec des lumières rouges pour figurer le Mossman. Ça pourrait aussi être un hibou énorme et inconnu, selon des cryptozoologistes, genre un hibou géant qu'on ne connaîtrait pas. Ou alors, c'est la théorie qui me plaît le plus, un simple hibou vu de très près. Alors, Oula. Eh oui. Alors, John Nickel, donc, j'en avais déjà parlé, il me semble, ce qui est un debunker, qui est vraiment quelqu'un à l'esprit très sceptique et qui a débunké énormément d'affaires aux États-Unis et même à travers le monde. C'est lui notamment qui avait débunké le Saint-Suaire de Milan, qui avait débunké les Sir Fox. Donc, c'est quelqu'un qui, voilà, a vraiment fait son métier de ces sujets-là. Donc, pour lui, le bruit semblable à une souris, les ailes, la façon de bouger, les yeux qui deviennent rouges quand il croise la lumière, le fait qu'il fuit quand il y a beaucoup de lumière, c'est peut-être, du moins pour la première observation, celle dont j'ai parlé tout à l'heure, un gros hibou. Alors, ça n'a jamais été confirmé, hein, évidemment. Donc, il y a toujours une aura de mystère autour de ce qui s'est passé à Point Pleasant. Mais John Nickel applique le rasoir d'Occam. Est-ce qu'il faut croire à l'existence d'une créature monstrueuse, énorme, ou se dire que des jeunes un peu fatigués sous le choc ont pu se tromper en estimant la taille et surtout la distance de la créature.
Et oui, mais surtout que j'ai peut-être une explication supplémentaire. Est-ce que ce serait pas un cosplayer fan de la fée Clochette?
Avec des yeux rouges?
Alors oui, c'est un peu trompé dans le costume. Ok, il a fait les choses de manière un peu approximative. Mais la description que j'en ai eue tout le long de ton histoire, c'était quand même quelqu'un qui s'était déguisé en fée clochette. Un bonhomme, visiblement, qui s'était déguisé en fée clochette. Ce n'est pas possible. Tu me diras.
Écoute, peut-être, je ne sais pas. Écoute, est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est un présage annonciateur de l'effondrement du Silver Bridge? Est-ce que c'est un extraterrestre?
Je préfère ma version.
Étrange. Je sais que tu préfères ta version. Moi, j'aime bien la version du gros hibou.
Ouais, elle est pas mal, ouais, c'est vrai.
Mais bon, en fait, c'est sûrement un peu de toutes ces théories-là, hein, en fonction des témoignages, sans compter les faux témoignages, évidemment, puisqu'il y en a eu énormément, hein, puisqu'il y a eu une vraie Mossmania autour de tout ça. Et aujourd'hui encore, d'ailleurs, le Mossman continue à apparaître, et pas seulement à Point Pleasant. On l'a vu notamment à Chicago, en Pennsylvanie cette année, et on l'avait pas mal vu aussi en 2016, comme par hasard, pile à temps pour les 50 ans de sa première apparition. Alors, le degré de mystère est évidemment de zéro pour l'intégralité des théories du complot, hein. Tout a été visiblement inventé par John Aikil, mais tout de même un peu élevé pour la créature en elle-même, puisqu'on ne sait toujours pas de quoi il s'agit. Est-ce que on classe l'affaire? Je te laisse en décider.
En même temps, je sais pas, les descriptions en fait étaient assez précises des personnes. C'est ça que je trouve rigolo, c'est que les premières personnes, celles dont tu parlais dans le rapport de police, les descriptions étaient assez précises et assez rigolotes et assez
précises et concordantes. J'en ai lu trois, hein, sur ces quatre témoignages. Et oui, ça concorde. Exactement comme pour l'affaire de la Dame Blanche de Palavas-les-Flots, où les témoignages des quatre jeunes concordent. Alors, soit ils se sont très bien entendus et c'est un canular.
Ouais. Je pense que le canular est pas mal aussi.
Voilà, hein, c'est possible aussi, mais bon, visiblement, elle était vraiment traumatisée. Et d'ailleurs, ils insistent beaucoup sur le rapport de police là-dessus, sur le fait que Linda Scarberry a eu beaucoup de problèmes par la suite, par rapport aux gens qui ne la croyaient pas, qu'elle a eu vraiment des problèmes psychologiques par rapport à ça. Elle a vraiment eu beaucoup de mal à s'en remettre. Ça a vraiment mis des années ça l'a vraiment hanté jusqu'à très récemment. C'est-à-dire que de temps en temps, aux États-Unis, il y a des reportages sur le Mossman. Elle y participe encore aujourd'hui en clamant qu'elle a toujours dit la vérité et que ce n'était pas un canular, quoi.
D'accord. Bon. On la croit?
Je ne suis pas sûr. J'ai envie de classer l'affaire, mais en même temps, j'ai un peu aussi envie d'aller à Point Pleasant, d'aller au musée du Mossman pour avoir accès à d'autres documents et avoir un panorama complet sur l'affaire.
Donc, tu sais quoi, je cherche, allez, je suis sur TripAdvisor.
Billet pour Point Pleasant. Ouais. Allez, c'est parti, on fera passer ça en note de frais. Cette session de travail du Bureau des Mystères est désormais terminée, merci à vous de l'avoir écouté.
Le Bureau des Mystères est un podcast Rivière à Ferraille, et à ce titre, vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux, notamment le Twitter, @BDMlePodcast, sur notre page Facebook Charles et Mathias. N'hésitez pas aussi à nous laisser des commentaires et des notes sur iTunes, c'est bon pour notre référencement.
Nous, on vous retrouve très bientôt pour un nouvel épisode, et d'ici là, faites bien attention quand vous sortez vos moutons.